Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode numéro 475 du podcast Touchdown Actu. Alain Mathy, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle preview, mais pas de saison régulière, puisque cette fois, on parle playoff avec Lucas Vola. Bonjour, Lucas.
Salut, Alain. Salut, tout le monde.
Motivé, chaud, Lucas. On n'a plus que 6 matchs après à présenter cette semaine.
Oui, c'est toujours le problème. Hein. Quand les playoffs arrivent, on a moins de matchs, mais en même temps, les matchs sont plus importants. Donc, on a un sentiment partagé à chaque fois.
Ouais. Est-ce qu'on avait vraiment 6 bons matchs la semaine dernière?
Ah, 6, je suis pas sûr qu'on arrive à ce total, ouais.
Ouais, tu vois, je suis même pas sûr. Donc, en fait, on perd pas tant de choses que ça. Lucas, donc, on est ensemble pour parler playoff, preview et encore preview. C'est dans cette émission. C'est maintenant, c'est incroyable, c'est parti.
It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night! And it's our division! It's our time to go win it! We're gonna start fast and finish strong!
Yes, sir!
And we're gonna work on three! One, two, three, work!
Les playoffs sont donc lancés, on va faire par conférence, match par match, et vous donner évidemment le programme à chaque fois. Tampa Bay Buccaneers, Philadelphia Eagles, Tampa est tête de série numéro 2, Philadelphie numéro 7, ça sera dimanche à 19h. On ne les fait pas dans l'ordre, mais on les fait par conférence, hein, je vous le redis. Donc dimanche 19h pour ce Buccaneers Eagles, honneur aux champions en titre. Deux équipes qui se sont affrontées le 15 octobre, victoire 28-22 de Tampa, mais ce n'était pas vraiment la même ambiance à l'époque. Jalen Hurts n'avait même pas complété la moitié de ses passes, ils avaient été bien stoppés au sol, et Antonio Brown était là, meilleur receveur des Buccaneers sur ce match. Je l'ai dit un petit peu, le jeu au sol, Lucas, Philadelphie qui a un gros jeu au sol, qui s'est affirmé au fur et à mesure de ses playoffs, qui se retrouve peut-être avec le pire match-up. Alors sur le papier, c'est-à-dire que les Buccaneers sont troisième défense contre la course, mais il y a un mais, ils sont moins forts depuis quelques temps.
Ouais, ils sont un petit peu moins forts. Alors, je suis assez d'accord pour dire que c'est peut-être le pire match-up pour eux, mais peut-être pas dans ce secteur-là, dans le sens où, pour moi, c'est plus une clé que quelque chose qui est défavorable pour les Eagles, dans le sens où, en effet, ça fait deux semaines qu'ils posent un petit peu question dans ce secteur-là pour les Buccaneers. On l'a dit mardi, ils ont pris pas mal de yards face aux Panthers, qui ne sont pas une équipe réputée dans ce secteur-là. Ils ont pris beaucoup de yards face aux Jets la semaine d'avant, qui est encore moins une équipe réputée dans ce secteur-là. Et là, ils abordent un match-up avec une équipe qui, pour le coup, est réputée pour être très bonne face à la course. Donc, on va vite savoir pour les Buccaneers. Maintenant, voilà, ça fait deux ans, tu le disais, ils ont une très bonne défense face à la course toute l'année quasiment. L'année dernière aussi, c'est aussi pour ça qu'ils ont réussi à gagner ce titre-là. Donc, est-ce qu'ils vont se rattraper ou en tout cas revenir à leur standard sur ce wildcard weekend? On va le voir, mais en tout cas, c'est une clé, ouais.
Ouais, c'est clairement un des match-ups les plus importants. Parce que s'il se retrouve bloqué, Jalen Hurts doit essayer de suivre Tom Brady, et ce qui est pas forcément évident, même avec le manque de cibles dont on va parler. Les Eagles ont peut-être aussi un autre avantage, j'ai l'impression, sur les defensive backs de Tampa. On dit depuis quelques semaines que les defensive backs de Tampa sont pas forcément les plus rapides et les plus fluides de la ligue. Face à Devonta Smith, alors ils ont pas des stats monstrueuses, hein, Devonta Smith et Dallas Goedert, mais il peut y avoir un petit coup à jouer quand même pour le rookie.
Oui, il peut y avoir un petit coup à jouer. En tout cas, on va l'attendre. Clairement, c'est un rookie. Il fait une très bonne saison, certes, mais on va l'attendre dans les grands moments. Ce sont le genre de joueurs qu'on veut voir faire des décisions dans des très grands moments, dans des moments pour faire qualifier son équipe en playoff. Il l'a fait quasiment en fin de saison. Maintenant, on va l'attendre face à des grandes équipes dans les playoffs. Après, c'est vrai que les defensive backs des Buccaneers sont un petit peu plus en difficulté, mais je trouve que, notamment par rapport à l'année dernière, la grosse différence, c'est le pass rush. Et quand ce pass rush-là des Buccaneers est bon, ça permet aux defensive backs d'être un petit peu moins sous pression, d'être un peu plus agressif. Et c'est dans ce schéma-là qu'ils sont très bons.
Ouais, après, il y a des blessures quand même. Tu vois, Shaq Barrett. Non, Shaq Barrett sort de Covid. Je me mélange entre
Alors,
Covid et
normalement, blessures. Normalement, Shaq Barrett devrait revenir, sortir de Covid, en effet. Lavonta David devrait revenir aussi. Jamal Dean pourrait revenir aussi. Il y a beaucoup. Jason Pierre-Paul devrait revenir. Il y a beaucoup de joueurs qui devraient revenir dimanche. Alors, pour l'instant, tout n'est pas sûr, mais ils ont beaucoup de joueurs. Giovanni Bernard, Leonard Fournette aussi. Ça, c'est plutôt du côté de l'attaque. Mais il y a tous ces joueurs-là qui devraient normalement revenir, soit sortir de Covid, comme tu disais, soit sortir des blessés. On attend de voir dimanche, on sait que c'est toujours un petit peu incertain, mais normalement, Bruce Arians devrait retrouver pas mal de joueurs.
Ouais, ouais, donc c'est pas mal, mais ils reviennent aussi de blessures, tu vois, ils sont pas sur une bonne série, forcément, ils sont pas hyper chauds comme l'an dernier, on en revient souvent à ça. Je trouve que c'est vraiment une variable quand même à prendre en compte, je trouve, cet état de forme des Buccaneers qui sont pas à leur pic au meilleur moment comme l'an dernier. Après, encore une fois, hein, ils restent assez favoris, ils ont l'expérience, Hurts a jamais joué les playoffs, Devonta Smith, on en parlait aussi, donc bon, a priori, là-dessus, ils ont l'avantage. Après, l'autre clé pour battre Tom Brady depuis, 15 ans, c'est de lui mettre la pression. La mauvaise nouvelle pour les Eagles, c'est qu'ils ont réussi que 29 sacks cette saison, ils sont avant-dernier total de la ligue. Est-ce que c'est rédhibitoire, tout simplement?
Oui, tu as commencé en disant que c'est peut-être le pire match-up pour les Eagles et en parlant surtout de la défense au sol. Et je suis d'accord avec toi, pour moi, c'est le pire match-up et pas forcément pour la défense au sol parce qu'on l'a dit, on va le voir, mais pour ce genre de choses-là. Et tu as évoqué deux points essentiels pour moi. L'expérience, les Eagles sont là. On va le dire, ils font pas une saison incroyable, ils font une saison bonne. On l'a dit, qualifié avec le septième seed, ce qui qualifie souvent des équipes moyennes pour prendre de l'expérience. Ils ont peu d'expérience, donc ils vont être là pour en prendre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est comme tu le disais, Brady, il faut le toucher, il faut lui mettre la pression. Et même si on le sac pas, parce que c'est difficile, il faut lui faire penser qu'on peut le saquer à tous les snaps. Et on l'a vu, ce que les Saints sont capables de faire, et à chaque fois qu'ils jouent contre lui, sauf en playoff, manifestement, mais ils l'ont fait deux fois cette saison, et deux fois, ça a fonctionné. Est-ce que les Eagles sont capables de le faire? Je suis pas sûr, notamment parce que, tu l'as dit, c'est pas forcément une équipe qui a un pass rush incroyable.
Et qui dit pass rush, pas forcément hyper comment dire productif, pardon, dit aussi defensive back, pas forcément à leur avantage. Ils ont que 12 interceptions cette saison. Là aussi, il y a une grosse différence. Plus 10 pour Tampa sur les turnovers cette saison. 0 pour Philly de différentiel cette année. Ils perdent autant de ballons qu'ils n'en gagnent. Donc là aussi, il y a encore un avantage Buccaneers. On a commencé par les Eagles parce que on commence un petit peu par le petit poussé aussi. On cherche les failles. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça, en fait.
Oui, c'est difficile. En fait, et je peux le dire parce que vous en profitez certainement sur le site, on prépare les previews de chaque équipe, de play-off, et je suis sur celle des Buccaneers. Et en fait, la différence, c'est vrai qu'avec l'année dernière, c'est que l'année dernière, les Buccaneers montaient en puissance. On les a sentis partir un peu doucement et monter. Cette année, on sent que c'est plutôt des montagnes russes. Si on doit faire une courbe, c'est un peu en haut, un peu en bas. Et là, on attend de voir. Et on attend de voir. Et je pense que ce match de dimanche, à mon avis, devrait être une victoire pour les Buccaneers. Mais en effet, ça va être un test pour voir comment les Buccaneers sont, comme tu dis, parce que globalement, il y a peu de défauts, on va dire, si ce n'est quelques absences en attaque qui peuvent être importantes, certes. Il y a peu de défauts. Mais comment tout cela va se mettre en place avec les blessures qui reviennent, avec cette peut-être lassitude? On sait que Brady n'est pas forcément sujet à la lassitude, mais est-ce que les autres le sont? Voilà, ça, on va le voir. Mais c'est vrai que quand on analyse comme ça assez froidement, on a du mal à trouver des défauts vraiment très, très marquants, des grosses alertes rouges.
Pronostic?
Je vais dire les Buccaneers, avec tout ce qu'on a dit, c'est difficile de miser contre le champion en titre, qui plus est, qui possède Brady dans son équipe.
Les Buccaneers, à l'unanimité dans la rédaction, je peux vous le dire. Cowboys, tête de série numéro 3, 49ers numéro 6, ce sera dimanche à 22h30. Ambiance 90s, rivalité NFC, les Cowboys ont statistiquement la meilleure attaque de la ligue, premier sur les points, premier sur les yards. Et ce qu'on réalise moins, c'est qu'ils sont aussi devant les Niners en défense. Ils ont pris moins de points que les 49ers cette année. Alors, ça se joue à pas grand-chose, hein. 21,1 pour Dallas, 21,5 pour San Francisco. Mais du coup, sur le papier, les Cowboys, ils sont plutôt favoris.
Oui, sur le papier, bien sûr, il y a le seeding qui fait que déjà, ils sont devant, ils ont gagné leur division. Les 49ers sont qualifiés au dernier moment, à la dernière action. Ils sont à domicile, Dallas. Difficile de ne pas les voir favoris. Maintenant, je comprends ta question, c'est que il y a beaucoup de choses qui peuvent faire dire. Est-ce que la surprise de ces playoffs, elle est pas là?
Alors oui et non, c'est-à-dire que en fait, moi, je suis toujours étonné, sans aller jusqu'à la surprise, mais je suis toujours étonné du recul qu'on a sur Dallas Alors qu'en fait, statistiquement, si tu vois, on fait un CV à l'aveugle et qu'on me disait, bon, bah voilà, t'as une équipe qui prend 20 points, 21 points par match, qui est première attaque sur les points, sur les yards, tu vois, on en parlerait plutôt avec engouement. On dirait, c'est un de ses favoris des playoffs, ils sont quand même en forme, enfin, ils peuvent quand même faire plein de choses, etc., etc. Donc, pourquoi on a cette petite retenue, en fait, sur les Cowboys? Pourquoi on n'en parle pas comme on parlerait des Packers, des 49ers, des Packers, des Buccaneers et presque même des Rams? J'ai l'impression même qu'on est moins chaud dessus que les Rams. Et je spoil, mais pourquoi il y a la moitié de la rédaction qui pronostique contre eux? Je donnerai les noms plus tard, mais...
Je pense qu'il y a une question de dynamique, une question de dynamique, d'impression visuelle. Dallas a commencé très fort. Et du coup, ça a mis des standards très hauts pour eux. Et en fait, un petit peu comme chaque année, depuis que Dak Prescott est là, que le coordinateur offensif est là, ça a été un petit peu moins bien. Ça a un petit peu descendu. Maintenant, ils avaient déjà fait assez en début de saison. Ils ont continué à maintenir quand même un niveau assez correct pour avoir les statistiques dont tu parles. Mais on parle maintenant de play-off sur un match. Est-ce qu'on voit cette équipe sur un match être capable de sortir son meilleur football à ce moment-là? Et c'est vrai que Dallas, parfois, pose question dans le sens où est-ce qu'ils vont être capables. On ne sait pas vraiment depuis quelques semaines quel Dallas on va voir, et notamment quel Dak Prescott, et notamment quelle attaque on va voir, en fait.
Y a ça, je suis assez d'accord. Hein. C'était un peu une question rhétorique, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas battu une grosse équipe. Je pense que c'est aussi simple que ça. Y a cette défaite en plus qui avait fait très tâche contre les Broncos, où ils ne s'étaient pas montrés. Et puis ouais, tu l'as dit, lors des dernières victoires, c'est les Eagles dans un match qui compte pour du beurre, Washington, les Giants, Washington, les Saints, qui étaient quand même très handicapés. Ils perdent contre les Raiders, ils perdent contre les Chiefs, ils perdent contre les Broncos. Donc oui, en effet, il y a cette dynamique. Après, je trouve quand même que l'opposition leur est favorable, face au cornerback des Niners notamment, 9 interceptions seulement pour San Francisco en saison régulière, avec en face CeeDee Lamb, Amari Cooper, Gallup, etc. Il y a un match-up super favorable quand même pour l'attaque de Dallas.
Alors, je crois que Gallup est blessé. Mais Cedric Wilson a bien pris le relais depuis quelques semaines. Donc, c'est vrai que c'est difficile de ne pas avoir Gallup, mais Cedric Wilson fait des bons matchs. Oui, ça peut être favorable. En fait, j'ai l'impression, et je le dis parce que je dois être parmi ceux qui ont pronostiqué les 49ers, j'ai l'impression qu'on imagine San Francisco être capable de salir ce match, de ralentir le rythme, comme ils peuvent le faire, de salir un petit peu comme ils l'ont fait en deuxième période face aux Rams, garder leur identité, beaucoup de jeux au sol, beaucoup de passes courtes, des drives assez longs, prendre l'avantage peut-être rapidement dans ce match-là, et ensuite voilà, salir, provoquer des pertes de balles sur les l'attaque offensive des Cowboys et essayer d'en éviter, même si comme tu le disais, en face il y a une équipe de Dallas qui en provoque, ouais.
Ouais, et puis qui est correct en défense. Alors j'ai pas la stat, je suis en train de regarder au niveau de la défense contre la course. C'est vrai que Dallas c'est pas optimal. Pardon, je suis sur la mauvaise stat. Dallas est milieu de tableau contre la course. Je suis d'accord sur le scénario, hein, grosse pression, Nick Bosa qui fait sauter la ligne offensive adverse, etc., etc. Mais je sais pas, j'ai du mal à voir Jimmy Garoppolo. Enfin, le plan de jeu, il est assez net, donc ils vont sûrement essayer de stopper le sol du côté de Dallas. Micah Parsons pourra mettre un peu de pression, il est polyvalent. Je suis pas sûr, en fait, que même en rendant ce match un peu difficile, San Francisco arrive à mettre ce qu'il faut de points, arrive à mettre, je sais pas, une... Parce qu'on est d'accord que les Cowboys vont quand même en mettre, je sais pas, 25.
Oui, en tout cas, on les attend au moins en mettre 25, avec des joueurs, comme tu l'as dit, comme tu as cité, avec Ezekiel Elliott qui fait pas un mauvais match face aux Eagles, avec Tony Pollard qui devrait revenir. Donc oui, on les attend à marquer au moins 20-25, et ce serait un minimum dans ce qu'on imagine de cette attaque. Ouais.
Et donc du coup, je ne sais pas si San Francisco peut aller en mettre 25 de l'autre côté.
Ils en mettent 24, là, c'est ça, contre... Non, ils en mettent un peu plus, du coup. Ils en mettent 27, plus, ouais. 27, puisqu'ils vont à 24-24 en prolongation face aux Rams. Ils en mettent 27. Pourquoi pas un match assez similaire? Alors, peut-être pas dans la physionomie d'une première mi-temps difficile, mais un match assez similaire autour des 20-25 points. Maintenant, moi, il y a aussi quelque chose dont on n'a pas encore parlé, et je radote assez souvent sur Dallas, mais forcément, on est obligé d'en parler. Mike McCarthy, je ne suis pas confiant dans son game management, dans sa gestion de fin de match, de fin de mi-temps, qui sont très importants face à un Kyle Shanahan qui on l'a vu, alors et peut-être pas toujours le maître en la matière, mais qui on l'a vu a été plutôt bon dans ses décisions face aux Rams dans un match qui était considéré comme les playoffs pour eux parce que c'était gagne ou rentre à la maison comme on dit. Donc dans ce duel-là, déjà par exemple, je vois avantage Shanahan. Et on sait que si le match est serré, en effet, ça peut faire défaut à Dallas. Maintenant, comme tu le dis, il faut que le match soit serré, il faut que San Francisco soit capable de le rendre serré.
C'est vrai que le problème avec Mike McCarthy, c'est qu'il faut avoir un petit matelas, on va dire, pour.
C'est ça, pour éviter des décisions qui souvent nous font lever un sourcil, comme on dit.
Bon, après, ça reste un coach qui a gagné un Super Bowl. Hein. Il débute pas non plus dans les playoffs, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Ceci étant dit, sur le pronostic, du coup, moi, je vais me ranger dans la team Dallas de la rédaction, parce que encore une fois, je trouve qu'ils ont l'avantage sur ce match-up aérien. On n'est pas sûr que Jimmy Garoppolo puisse produire. Alors, il produira jusqu'à ce qu'il produise plus. Hein, ça se trouve, ils vont en passer un ou deux tours, comme il y a 2 ans. Mais je vais aller sur Dallas parce que moi, je sais pas, le match-up aérien me plaît bien.
D'un autre côté, et je donnerai mon pronostic dans la foulée, mais qui est le meilleur joueur offensif dans ce match? Est-ce que ce n'est pas Deebo Samuel? Et qui est le deuxième meilleur joueur offensif dans le match? Est-ce qu'on met CeeDee Lamb ou est-ce qu'on met George Kittle?
Moi, j'aurais mis Kittle avant Samuel quand même, pour l'ensemble de son œuvre.
Oui, mais bon, sur la dynamique. Mais en tout cas, les joueurs offensifs, certes, le match-up quarterback, et c'est très important, je te l'accorde, et du côté de Dallas, mais est-ce que le reste n'est pas du côté San Francisco?
Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en plus, ils ont le meilleur coach, mais je reste sur Dallas quand même.
En tout cas, oui, ça va être un beau match. Moi, je vais mettre San Francisco. Après, voilà, je fais un petit annoncement à tout le monde, une petite annonce à tout le monde, c'est que tu vas dire les statistiques, enfin les résultats des pronos certainement après. Je suis légèrement en retard, donc il faut aussi mettre en perspective mes choix de pronostics dans le fait que il faut que je reprenne un peu des points sur certains. Donc, je vais mettre San Francisco. Pour le coup, j'y crois vraiment à celui-là, mais il y a certains, je n'utilise pas, mais il y a certains il y a des coups que je tente.
On va en parler. Bon, celui-là, en l'occurrence, c'était vraiment pas seul, hein, Victor et Raphaël. Prennent les 49ers, Grégory et Raoul prennent les Cowboys. Donc, on est vraiment à 3 contre 3. Rams, Cardinals, les têtes de série 4 et 5, c'est dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin. Oui, un Monday Night Football en playoff. Ils se connaissent bien puisqu'ils sont dans la même division, un partout cette saison. La tendance est clairement pas bonne pour les Cardinals sur la fin de l'année. Une seule victoire sur leurs 5 derniers matchs. Lucas, leur défense qui était très bonne à mi-saison, à un moment, on a dit quasiment ils sont la meilleure équipe ou l'équipe la plus complète, etc. Et cette défense, elle a vraiment lâché.
On parle des Cardinals, hein.
Des Cardinals, ouais.
Ouais. Elle a lâché. Bah, c'est vraiment le point noir de ces dernières semaines. C'est vraiment le facteur X pour eux parce que on le disait, on l'a souvent répété, c'est une équipe complète. Alors oui, il y a Kyler Murray, mais pour que cette équipe-là performe, il faut que tous les secteurs de jeu soient très bons et notamment la défense et notamment tous les secteurs de jeu dans cette défense. Et là, pour le coup, ils le sont pas, ils le sont plus, ils le sont beaucoup moins quand ils vont affronter cette équipe des Rams qui, certes, a ses propres questions en attaque, mais qui a quand même une force de frappe offensive assez nette. C'est vrai que ça paraît compliqué, ouais, notamment par rapport au match dont tu parlais et notamment cette victoire qu'ils avaient eue à Los Angeles. C'est bien différent depuis, ouais.
Les deux matchs ont produit plus de 53 points en cumulé, hein, donc devrait y avoir des points en théorie. Parce que j'ai aussi envie de te demander quelle défense peut ralentir ce match. Et forcément, là, j'ai envie de regarder vers Aaron Donald et Jalen Ramsey et Von Miller.
Oui, ce sont ces joueurs-là, quand on pense à des joueurs stars défensifs et quand on pense en effet à une défense capable de ralentir ou de faire des jeux très importants, il y a Aaron Donald, on en parle assez souvent pour qu'on ne s'étale pas sur Aaron Donald, mais c'est vraiment un joueur incroyable. Et puis Jalen Ramsey, c'est pareil, on a vu cette interception qui a fait forcément le tour des réseaux parce qu'elle est incroyable, mais il y a tout le reste. Il sent le jeu, c'est quand même un des cornerbacks les plus complets de la ligue. Il est capable de faire changer des cours de match à lui tout seul. Et quand on sait qu'il y en a deux dans cette défense, forcément, quand on doit choisir une défense, pardon, on va plutôt pencher sur celle des Rams.
Oui, et puis vu ce qu'on a dit en plus, hein, sur celle des Cardinals, qui devrait récupérer JJ Watt. Après, on peut même remarquer pour les blessés des Buccaneers tout à l'heure, mais là, en pire, c'est qu'il revient d'une absence très très longue. Est-ce qu'il va vraiment être à son meilleur niveau à la minute où il va débarquer sur le terrain? C'est quand même compliqué de miser là-dessus tout de suite. C'est pas impossible, hein, c'est JJ Watt, il est incroyable. Mais bon, on va pas tout de suite dire, ça y est, il rentre, il va être incroyable. Donc oui, Aaron Donald, Cliff Kingsbury disait d'ailleurs qu'il les avait vraiment détruits et qu'il avait défait le plan de jeu sur le match où ils perdent.
Il fait souvent
donc,
ça, ouais.
Donc voilà, ça semble aussi être à leur avantage. Et puis en plus, toujours pas de DeAndre Hopkins, ça aussi, Cliff Kingsbury l'a confirmé. Les Rams sont plutôt solides contre la course. Donc quand Arizona n'a pas cette base-là, pour moi, ça semble compliqué. Et en fait, ce qu'on est en train de dire en filigrane, c'est que Kyler Murray doit être incroyable, quoi.
Ouais, il va falloir qu'il sorte le meilleur match de sa saison. Et il en a fait des très beaux, donc c'est dire. Mais en effet, James Conner est sorti un petit peu blessé la semaine dernière. Je ne sais pas s'il jouera. Mais comme tu le disais, il y a des choses autour de Kyler Murray qui posent question un petit peu. DeAndre Hopkins, on le sait, son duel avec Jalen Ramsey est toujours incroyable. Parce que notamment, ils se connaissent de Houston-Jacksonville d'il y a quelques années. Et là, il ne sera pas là. Donc ça va permettre à Sean McVay d'avoir un petit peu plus de latitude dans son schéma défensif. Comme tu le dis, la défense au sol est plutôt bonne. Kyler Murray va devoir tout faire, tout simplement. Est-ce qu'il en est capable sur un match entier face aux Rams? C'est difficile.
C'est compliqué, d'autant qu'il a fait des très bons matchs, mais il a aussi pas mal ralenti. Il n'a que 7 touchdowns à la passe sur les 7 derniers matchs.
Alors qu'il avait l'absence d'Hopkins, à mon avis, fait beaucoup.
Et c'est ça. Je crois que Hopkins manque les 5 derniers. Hein. Il était là sur les deux premiers, mais... Mais ouais, ça fait peu. Donc là, ça commence à faire beaucoup dans notre argumentaire contre les Cardinals. Et inutile de dire qu'au niveau du pronostic, du coup, je vais aller avec les Rams.
Oui, moi aussi. Un tout petit mot sur Sean McVay. J'en ai parlé mardi. J'ai été un petit peu inquiet de son coaching conservateur, notamment face aux 49ers. Il appelle trois courses lors du dernier drive, notamment une dernière sur une troisième tentative. Je l'ai dit mardi, ça m'a posé question. Parce que oui, alors là, il joue les Cardinals, mais on en parlera peut-être après. Mais cette défaite face aux 49ers, elle est assez importante pour eux. Mais en effet, là, sur ce match-là, je les vois quand même passer.
La conférence AFC désormais, et avec une affiche très inattendue pour commencer. Cincinnati Bengals, tête de série numéro 4. Les Raiders sont tête de série numéro 5. Parce que oui, les Bengals et les Raiders sont en playoff. Ça se jouera samedi à 22h30. Ce sera le premier match d'ailleurs de ces playoffs officiellement. Les Raiders qui sont les miraculés de l'année. Les Bengals qui sont la belle surprise puisqu'ils ont gagné une AFC Nord ultra relevée. Vegas a gagné ses 4 derniers matchs, notamment grâce à une grosse défense. Est-ce que cette défense peut suffisamment tenir Joe Burrow, Jamar Chase, Joe Mixon, T. Higgins? Ça fait beaucoup de monde. J'ai l'impression que c'est quand même une des questions vitales de ce match.
Alors oui, ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde, et notamment sur le backfield défensif, ils n'ont pas l'effectif pour tenir. Et en même temps, peu de gens l'ont. Maintenant, je vais penser plutôt à la ligne offensive, ligne défensive, en tout cas le match-up entre ces deux lignes-là, parce qu'on le sait, un pass rush efficace peut annihiler quelques défauts dans le backfield défensif, et c'est un petit peu ce qui s'est passé notamment face aux Chargers pour Las Vegas. Et dans ce match-up là, on sait que Joe Burrow est souvent saqué. Alors il est très bon, mais il est souvent saqué parce que sa ligne offensive est inconstante. Et on a vu, on en a parlé, Max Crosby est incroyable, Clelin Ferrell, Yannick Ngakoue font des super saisons avec des pressions sur le quarterback. Donc je me dis que c'est peut-être là que Las Vegas peut mettre une grosse pression et peut faire une différence. Ils vont prendre des points, mais ils vont peut-être pouvoir ralentir.
Alors clairement, les statistiques ne sont pas à leur avantage. Je parlais des interceptions tout à l'heure. Le pire total de la Ligue cette année, c'est les Raiders. 6 interceptions seulement. Pire total de la NFL. Moins 9 sur le différentiel de ballons perdus. Alors on l'a dit, il y a eu des passages très difficiles. Il faut mettre en perspective. La fin de saison est meilleure. Mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que là, le plan de jeu, c'est vraiment que le pass rush soit dans un jour de folie, que ça provoque des erreurs, que cette stat des 6 interceptions, on en rigole samedi soir parce qu'ils auront mis une pression folle, que Burrow aura fait 2-3 erreurs et puis que finalement, ça pourrait faire tourner le match en leur faveur. Mais c'est vraiment le plan idéal parce que si Burrow a un peu de temps pour lancer...
Ah oui, alors là, ça c'est sûr que qui va défendre sur Jamar Chase, et puis t'as cité T. Higgins, t'as cité Tyler Boyd, c'est sûr que le danger peut venir de partout. On l'a vu sur ces derniers matchs, il vient de partout face à Cincinnati.
Et du coup, en plus, s'il faut commencer à suivre le rythme, l'attaque des Raiders, c'est limité quand même. Josh Jacobs a fait un excellent match contre les Jaguars, quasiment le match de sa vie, mais les Bengals en plus sont plutôt solides contre la course. Alors il y a des trous dans les airs, ça arrive, mais qui va les prendre? C'est-à-dire qu'il y a Hunter Renfrow, DeSean Jackson est porté disparu hein, depuis son premier bon match. Darren Waller revient de blessure. Il n'a pas joué depuis 5 ou 6 matchs en saison régulière puisqu'il n'a pas réussi à revenir pour le match contre les Chargers. Là, il devrait revenir, mais à quel niveau il va être ? Donc, même s'il y a des trous dans les airs, est-ce que vraiment les Raiders pourraient en profiter et suivre un gros match ? Je te dis une bêtise, mais si ça monte, je sais pas, à 25 points, ça semble compliqué de les voir suivre, quoi.
Je pense que Darren Waller est important. À l'image d'un Gronkowski à Tampa Bay, c'est un joueur qui pose une grosse problématique aux défenses dans sa capacité à faire un petit peu tout et à être un match-up un peu cauchemardesque pour les coordinateurs défensifs. Et je pense que s'il revient, alors peut-être qu'il sera pas à 100% comme tu le dis, mais s'il revient à un très bon niveau, il peut faire changer cette attaque de dimension. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde comme ça, certes, Hunter Renfrow fait une superbe fin de saison, mais on a du mal à porter une équipe à la victoire en play-off. Maintenant, les Raiders, ils font des matchs à chaque fois où on se dit bon, ils doivent pas gagner ce match, c'est eux qui provoquent, enfin c'est eux qui ont des pertes de balles, ils en provoquent pas et finalement ils finissent par le gagner. Alors certes, c'est face à une opposition, les Browns qui sont pas toujours incroyables, mais on le voit quand face aux Chargers, ils ont du caractère, ils ont le mental. C'est assez impalpable, en effet, un petit peu à l'image des 49ers. Toutes les statistiques penchent peut-être en faveur de Cincinnati, mais Cincinnati aussi inexpérimenté, et autant que les Raiders, hein, je veux dire. Hein, je suis pas en train de dire que Las Vegas est beaucoup plus expérimenté que Cincinnati, mais on a affaire à deux équipes inexpérimentées. On ne sait pas trop comment ils réagissent dans des grands moments et dans des matchs de play-off, donc à voir.
Donc, le scénario où les Raiders passent, pour toi, c'est qu'on a dit gros pass rush en défense, ils provoquent 2-3 erreurs.
Oui, et puis un Derek Carr bon, qui évite des erreurs. Alors je vais dire quelque chose je vais dire des poncifs, mais un Derek Carr qui évite les erreurs, et de l'autre côté les Raiders qui font un pass rush, qui mettent vraiment Joe Burrow en grande difficulté, notamment sur les pressions, et qui a du mal à distribuer comme il a pu le faire. Il y a des matchs où c'est arrivé. Il faut pas non plus faire croire que Cincinnati a fait une saison où Joe Burrow a tout explosé. Il y a des matchs où notamment parce que il est que dans sa deuxième année et on le comprend aisément, mais il y a des match où il est pas passé à travers, mais il a eu beaucoup de difficultés et son équipe a perdu.
Je cherche ce que je voulais dire. Oui, j'allais dire, ils ont zéro marge d'erreur, quoi, en fait, surtout en attaque, ça va être ça.
Oui, oui, clairement, parce que, bah, et puis en plus, c'est à Cincinnati.
Pronostic.
Mais là, on est typiquement dans le scénario dont je parlais tout à l'heure. Je vais dire les Raiders plutôt parce que j'essaye de récupérer des points, que j'en suis convaincu, même si j'ai essayé de le défendre. Mais Las Vegas peut gagner.
Après, si tu veux juste éviter la dernière place, tu n'as pas non plus à prendre plein de paris suicidaires. Tu as 2 points de retard hein, sur Greg.
Oui, mais moi, j'aime vivre avec panache, tu sais.
D'accord. Bon, non, parce que la première place, ça va être un peu plus dur. Hein. Je donnerai les scores après. Donc Bengals pour tout le monde et pour tout le monde dans la rédaction. Bengals pour moi, Raiders pour toi et Bengals pour tout le monde dans la rédaction, sauf Lucas. Bills contre Patriots, tête de série numéro 3 pour les Bills et 6 pour les Patriots. Samedi à dimanche, c'est donc dans la nuit à 2h15 du matin. Rivalité de division, un partout en saison régulière, oui, comme les Rams et les Cardinals tout à l'heure. Les deux meilleures défenses de la Ligue sur les points encaissés, sur le papier. Tout à l'heure, j'ai parlé de festival offensif. Là, pour le coup, on est plutôt dans un autre registre.
Ah là, on est plutôt dans un autre registre. Tu l'as dit, c'est samedi soir en prime time, c'est ça ?
Ouais.
Ça va être sympa de rester éveillé sur ça, même si je pense que ce match-là va être très sympa à suivre, et alors peu spectaculaire, mais très sympa à suivre dans le sens bataille tactique, bataille de défense. C'est pas forcément, je le disais, à chaque fois les matchs les plus spectaculaires, mais c'est souvent des matchs très intéressants. Je suis pas forcément fan des équipes qui se retrouvent en play-off alors qu'elles sont dans la même division, mais pour le coup là, le scénario est tellement parfait avec une victoire partout à l'extérieur que j'ai envie de revoir cette belle entre guillemets.
Surtout que c'est intéressant au final parce que j'ai envie de dire c'est l'expérience quand même dans les matchs défensifs, et pour l'expérience elle est pour les Bills du côté des joueurs, Josh Allen, Stephon Diggs, finale de conf de l'an dernier, etc., et elle est quand même un peu plus du côté des coachs, du côté de New England avec ce super staff, avec Bill Belichick. Bon, après, sur le papier, c'est dur quand même de pas dire que les Bills sont favoris. Ils ont gagné le deuxième match de manière un peu plus convaincante, et Mac Jones a quand même pas mal ralenti. Pour Mac Jones, d'ailleurs, contre les Bills cette année, c'est aucun touchdown et 2 interceptions. Après, il y a un match où il lance pas de passe quasiment, où il n'en lance que trois, donc ça module un peu. Mais voilà, le fait est que c'est une défense très difficile pour un rookie en playoff. C'est dur de le voir flamber samedi soir.
Oui, j'ai du mal à imaginer que ce soit Mac Jones qui porte son équipe sur les épaules. Et s'il le fait, ça sera encore plus impressionnant pour un rookie. Mais même si New England gagne, j'ai du mal à imaginer que ce soit grâce à Mac Jones et plutôt avec un Mac Jones qui évite les erreurs et une équipe derrière, autour de lui qui est parfaite. En tout cas, ça, c'est le scénario enfin, qu'on imagine si jamais New England gagne. Parce qu'en effet, en face, il y a des Bills qui, certes, en attaque, ont encore quelques questions, mais en défense, sont très solides, tu l'as dit, reviennent un petit peu à ce qui a fait leur force, on va dire, il y a 2 ans, avec une défense incroyable. Et c'est vrai que c'est plutôt les favoris dans cette rencontre. Ouais.
Bon, on parle de scénario depuis tout à l'heure. Pour les Patriots, il faut du old school, du vrai old school, quoi. C'est-à-dire course, 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 défense, défense, défense. Un peu Brady première époque, quoi.
Ouais. Oui, c'est ça. Il faut, comme tu l'as dit, il faut que New England prenne le devant rapidement. On a vu lors du deuxième match, Buffalo avait aussi, et c'est un petit peu paradoxal, privé l'attaque de New England de ballon. Non pas que cette attaque-là soit incroyable, mais c'est surtout que ça casse le rythme. Il y a eu des drives extrêmement longs, près de 10 minutes à chaque fois. Et donc du coup, derrière, quand le temps de jeu se réduit, comme on dit, comme New England n'a pas une équipe pour aller gagner un drive 70 yards, 75 yards en très peu de temps, ou en tout cas de le faire ré régulièrement, bah ça complique la tâche aux Patriots. Donc en effet, c'est les Bills ont tous les ingrédients pour le faire. Maintenant, encore une fois, j'en ai parlé mardi. Il y a ces équipes spéciales. C'était un tout petit point d'interrogation, mais qui peut devenir gros face à Belichick parce que tu l'as dit, New England doit faire le match parfait en attaque, en défense et en équipe spéciale. On sait qu'ils sont capables de le faire. Est-ce que Buffalo est capable de le faire? C'est la question.
En me disant Brady première époque, je réalise que ça vaudrait presque une émission complète. Tu sais, genre combien il y a d'époques de Brady maintenant? On a le premier cru, on a la période folle, Randy Moss, etc. Saison presque parfaite, on a l'après-blessure. Enfin, c'est quand même un truc. Bon, bref,
Il y en a
je.
au moins ouais, 3 voire 4 si on considère que les Buccaneers en sont une nouvelle, quoi.
Ouais, je digresse, mais j'étais en train de me dire qu'en plus, on a quasiment certains auditeurs qui étaient maintenant presque pas nés, en fait, quand il gagne son premier Super Bowl. Ça fait 20 ans, ce mois-ci, quoi.
Oui.
C'est un délire, hein. Il a gagné son premier Super Bowl il y a 20 ans et il pourrait peut-être en gagner un maintenant. C'est quand même. T'étais tout petit, en fait, quand il a gagné son premier Super Bowl.
Bah, j'avais 8 ans,
Mais oui.
ouais, 9 ans.
Je réalise maintenant que je connais ta date et que je remplis tous les formulaires, je l'ai dit dans l'émission précédente. Et moi, je me rappelle de celui-là, je l'avais regardé en direct sur une chaîne allemande parce que j'avais pas Canal à l'époque. Et sur CanalSat, tu pouvais encore gruger à l'époque, il y a des chaînes allemandes qui diffusaient le Super Bowl. Fin de la digression. Les Bills ont quand même moyen d'accélérer. Moi, j'ai envie de te dire aussi ça. La défense des Patriots, qui était très très bonne, qui est très bonne statistiquement et tout ça, très bien. Mais en fait, si tu enlèves la démonstration contre les Jaguars, leur dernier match, ils prennent 33 points contre les Dolphins, 33 contre les Bills, 27 contre les Colts. Donc, c'est pas si solide que ça non plus sur les dernières semaines, hein.
Non, il y a quelques blessés et surtout pour moi la clé, je l'ai écrit dans la preview, c'est Matt Judon, le linebacker offensif qui a été recruté cette année parce qu'il fait un super début de saison. Il finit d'ailleurs avec 12,5 sacs. Mais pour moi, c'est lui la clé parce que en effet, il a un petit peu ralenti dans cette fin de saison. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles New England prend un petit peu plus de points. On sait, les Patriots ont besoin d'un pass rush assez important. Et il apporte ça. Il apporte ça tout seul. Il apporte de la pression. Il apporte des sacs. Il libère des espaces, notamment pour d'autres joueurs comme Christian Barmore, qui fait lui une très bonne saison, le rookie. Voilà, il va falloir que Matt Judon soit bon pour que cette défense prenne un petit peu moins de points, comme tu l'as dit, et surtout aussi concrétiser certaines actions. On a vu depuis quelques semaines des interceptions toutes faites qui n'ont pas été faites, et c'est rare du côté de New England, notamment McCourty ou Jesse Jackson. Il va falloir cette fois-ci ne laisser passer aucune occasion.
Pronostic.
Je vais dire Buffalo parce que pour tout ce qu'on a dit, ils sont favoris, ils ont l'expérience terrain.
C'est le deuxième match pronostiqué à l'unanimité par toute la rédaction. Bills pour tout le monde. Chiefs, Steelers, tête de série numéro 2 pour les Chiefs. Steelers sont tête de série numéro 7. C'est dans la nuit de dimanche à lundi à 2h15 du matin. J'ai dit que les Raiders, c'était les miraculés des playoffs, mais les Steelers, c'est pas mal non plus, hein. Ils ont
Moi aussi.
passé qu'une seule fois à la barre des 30 points cette saison. Ils n'ont passé que 5 fois à la barre des 25 points. En clair, ils ne marquent pas beaucoup. Est-ce que c'est le chiffre magique pour les Chiefs? On dit 25 points, c'est bon.
Oui, bah oui, si en effet, vu ces statistiques-là, c'est à moins que Big Ben se révèle une nouvelle jeunesse, mais en effet, ça, autour de 25 points, on a du mal à imaginer les Steelers se rivaliser.
Alors, est-ce qu'ils peuvent les mettre, les 25 points, les Chiefs, contre les Steelers?
Oui, alors pouvoir les mettre, ils peuvent. Hein. Quand on a Patrick Mahomes, on peut mettre 25 points par carton. Hein. Et puis d'ailleurs, ils ont joué, je ne me rappelle plus le score exact de leur match, mais ils ont déjà joué. Et
30,
ça...
36-10.
Voilà, donc les 25 points, je pense qu'à la mi-temps, ils étaient presque passés. Maintenant, c'est un match de play-off. C'est quelque chose qui est souvent, qui n'est pas forcément régi par la logique. Pour moi, les clés sont les lignes offensives des deux côtés. On a vu une ligne offensive de Kansas City avoir des hauts et des bas. Quand elle arrive à protéger Mahomes, c'est très bon. Quand elle le fait moins, c'est plus compliqué. Et de l'autre côté, la ligne offensive de Pittsburgh, non pas pour protéger Big Ben, parce qu'il arrive à lancer très rapidement et maintenant il a atteint un plafond qui on a du mal à l'imaginer dépasser, mais c'est surtout pour le jeu au sol. Kansas City a pris beaucoup de rush au sol, de yards au sol, pardon, face à Denver. Et si la ligne offensive de Pittsburgh arrive à mettre Harris dans les bonnes situations, ça peut le faire. Donc voilà, pour moi, la clé, c'est les deux lignes offensives.
Oui, d'autant que bon, il y a quand même un TJ Watt à tenir à un moment pour la ligne offensive de Pittsburgh. C'est une défense un peu particulière, hein, les Steelers, parce que statistiquement, ils sont pas monstrueux, ils verrouillent pas leurs adversaires, ils sont 24e sur les yards, 20e sur les points. Mais TJ Watt mène un pass rush qui est à 55 sacs, qui est le meilleur pass rush de NFL. Donc, il va y avoir de la pression. Donc, on a vu ce qui s'est passé quand il y a eu énormément de pression sur Patrick Mahomes au dernier Super Bowl, ils ont perdu. Donc, voilà, clairement, c'est la clé. Il y a eu des blessures en plus sur cette ligne des Chiefs. Et puis après, c'est ce que tu disais, de l'autre côté, la ligne défensive des Chiefs, elle a quand même pris un sacré bouillon contre la course ces derniers temps. Et les defensive backs derrière sont quand même pas exceptionnels pour plaquer, ni même tout le temps pour couvrir. Donc, il va y avoir besoin de cette pression dans l'autre sens. Donc, ça rend le match intéressant. Après, c'est difficile de dire que les Chiefs ont pas beaucoup plus d'armes, quoi.
Ah oui, non, mais les Chiefs sont nettement favoris. Ils jouent à domicile. C'est quelque, voilà, c'est vraiment Patrick Mahomes est impérial en playoff à domicile. Je crois qu'il a jamais d'ailleurs joué de match à l'extérieur, si ce n'est le Super Bowl. Je dis peut-être une énorme ânerie, mais je crois qu'ils sont très souvent.
C'est pas impossible, vu qu'ils étaient souvent première tête de série, oui.
Donc oui, non, clairement, ils ont les armes. Tyreek Hill est sorti, ou en tout cas s'est blessé à l'échauffement, donc il devrait certainement être là.
Il s'est entraîné normalement mercredi, donc c'est bon.
Donc voilà, ça reste quand même à surveiller. On sait que l'entraînement, c'est pas le match. Il est très important dans ces armes-là dont tu parlais. Travis Kelce est toujours là. Et puis on a vu des joueurs émerger, ou en tout cas prendre un peu plus de place. Pringle, Mecole Hardman. Donc oui, les armes sont là. Il y a beaucoup de choses à faire pour Patrick Mahomes. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir annihiler ce pass rush. C'est vraiment, voilà, c'est la clé. Et pour être même encore plus précis, TJ Watt.
Bon, après, sur le match qui gagne justement les Chiefs 36-10, Mahomes prend deux sacs, il perd que 4 yards, mais derrière, il n'est pas intercepté. Il se débrouille très bien au sol aussi. Ils avaient fait un de leurs meilleurs matchs au sol avec 127 yards cumulés. Donc, voilà, il faut. Eux avaient saqué Ben Roethlisberger deux fois. Je pense que c'est à surveiller. Bon, tu le disais, pour la ligne offensive de Pittsburgh, c'est le jeu au sol. Et contre les Chiefs, ils avaient plutôt pas mal réussi parce que Najee Harris avait signé un match à 93 yards. Et eux terminent à 130 yards au total avec 5,2 yards par course. Donc, ils avaient trouvé des ouvertures. Mais clairement, il va falloir manger le chrono plus que de raison même pour garder le ballon et essayer de. Tu parlais de salir le match pour les 49ers. Là, il va vraiment falloir y aller comme ça, quoi.
Oui, c'est sûr, ils peuvent pas se permettre de n'être bons que d'un côté du terrain, ou en tout cas de faire le travail que d'un côté du terrain. Tu l'as dit, ils ont été bons au sol dans le premier match, mais ils n'avaient pas réussi à vraiment mettre la pression sur Mahomes. L'un ou l'autre ne fonctionnera pas. Et s'ils arrivent juste à mettre la pression sur Mahomes, les Chiefs sont capables de marquer quand même à 7 points. Si de l'autre côté, voilà. Donc il va falloir faire le, si ce n'est le match parfait, être bon des deux côtés du terrain. Après, ils sont bien coachés. On l'a vu, un Big Ben qui est certes très moyen, mais qui est capable d'être bon quand il faut. Donc, pourquoi pas.
Pronostic.
Bien là, alors là, encore une fois, hein, mais là, je vais mettre les Steelers. Alors, il faut une surprise aussi, hein, dans ces playoffs-là. Ça serait une énorme surprise, mais je vais mettre Pittsburgh, ouais.
Eh bien, tu es le seul. les Chiefs pour J'en tout le monde dans la rédaction. Je rappelle les scores des pronostics maintenant qu'on les a donnés tous. Tiens, j'ai pas donné les scores de la semaine dernière. Qu'est-ce que ça a donné? 10 points pour Victor, Raoul et moi. 9 pour Raphaël, 8 pour Lucas et 6 pour Grégory. C'est pour ça que tu as recollé. Il a fait une très mauvaise semaine. Oui, Grégory. Donc, il a. En même temps, il avait pris les Falcons contre les Saints, il avait pris les Giants. Il avait été courageux sur certains, on va dire. Donc, ça fait 182 points pour Raphaël, 181 pour Raoul et moi. On est aux portes de la première place. 178 pour Victor, 171 pour Grégory qui est décroché et Lucas, 169. En effet, tu commences à t'éloigner de la première place. Et je rappelle, 2 points par match pendant les playoffs. Tout ce qu'on vient de dire là, ça vaut 2 points par match. Comme en plus, il y a 2 matchs de plus maintenant. Le suspense est relancé. On va simuler par rapport à la première place. Tu as 3 pronostics différents avec Raphaël. Tu pourrais très bien lui reprendre 6 points. Tu vois, si tu joues vraiment au panache. 182, 179, 6 points, ouais, tu comblerais bien.
Le problème de tenter des coups, c'est qu'en fait, on entend beaucoup. Il y en a un qui passe, on est ravi, mais en fait, on perd sur les autres coups qu'on a tentés.
Ça s'équilibre toujours plus ou moins, c'est ça le problème, ouais. Voilà donc pour le premier tour. Évidemment, on va parler de tout le reste des playoffs.
Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Les playoffs au complet, petit bracket des playoffs, on va dire tableau parce qu'on est français, et on va aller au bout de ça. Vous voulez retrouver tous les tableaux de la rédaction sur le site, ce sera publié je ne sais plus quand, vendredi, allez on va dire vendredi, tiens. Voilà. J'ai mis une deadline à la rédaction à jeudi, donc je vais le publier vendredi. Lucas, tableau des playoffs, donc on va prendre la base, à moins que tu veuilles faire un tableau des playoffs avec des pronostics où il n'y a pas tes paris.
Non, j'ai fait mon tableau en faisant les pronostics que j'ai.
Allez, on garde ton tableau des playoffs. Alors, je te laisse me dire ce que tu. Alors, au premier tour, on va prendre conférence AFC. Donc, tu avais donné les Raiders et les Bills et les Steelers.
Oui, ce qui donnerait donc des Steelers qui devraient aller à Tennessee et des Bills donc qui reçoivent les Raiders. Qui reçoivent les Raiders normalement pour les finales de, le divisional round. Donc et là j'ai pronostiqué Tennessee qui gagne à domicile parce que on le disait Pittsburgh est capable de faire un exploit, mais j'ai du mal à les imaginer en faire 2 voire 3 d'affilée. Donc, je verrai Tennessee en finale de conf, tout comme Buffalo, qui devrait, pour moi, encore à domicile, avec l'expérience, notamment face aux Raiders, arriver avec une finale de conférence. Titans-Bills, c'est ce que j'ai pronostiqué.
OK. Titans-Bills en finale de conf. Et qui va au Super Bowl?
Les Bills. Cette fois-ci, ça serait à Tennessee dans ce scénario-là. Mais je vois les Bills passer parce que l'expérience, tout simplement, même si ces deux équipes-là ont fait des finales de conférence l'année dernière et l'année d'avant.
C'est vrai. C'est les deux derniers finalistes, en fait. C'est ceux qui se font sortir à chaque fois.
Exactement.
Les Bills, en NFC, ça te donne quoi?
En NFC, j'ai mis San Francisco qui s'impose et donc qui devrait aller à Green Bay. Et ensuite j'ai mis Tampa Bay qui devrait recevoir les Rams, Green Bay, San Francisco. Encore une fois, je vois Green Bay passer. Je vais spoiler tout ça, mais pour moi Green Bay va aller au Super Bowl dans mon scénario. Donc j'imagine Green Bay battre San Francisco à domicile, 2 semaines de repos d'affilée, enfin quasiment 3 avec le match de la semaine 18, Aaron Rodgers en feu. Donc voilà, j'imagine battre San Francisco. Et de l'autre côté, Tampa Bay Rams, alors j'ai beaucoup hésité sur ce match là je pense que ça peut être un très beau match. Les Rams avaient battu Tampa Bay, mais on va dire que plus par sécurité, et c'est bizarre de dire ça quand je pronostique Pittsburgh notamment, mais j'imagine Tampa Bay gagner parce que à domicile et avec l'expérience, je les vois plus sereins que Los Angeles.
Donc Green Bay Tampa et Green Bay au Super Bowl.
Et Green Bay au Super Bowl, alors c'est le rematch de la finale de conférence de l'année dernière, si je ne me trompe pas, à Green Bay aussi. Tampa Bay avait réussi à gagner, on se rappelle de ce match-là, avec des defensive backs de Green Bay qui avaient été à la rue, Tom Brady qui avait réussi à faire un match incroyable. Cette fois-ci, je vois l'inverse. Pour moi, c'est l'année ou jamais pour Green Bay. Ils sont premiers, ils ont un bilan encore incroyable. Ils vont faire tout à domicile à part le Super Bowl, si jamais. Aaron Rodgers devrait être, en tout cas, sera dans la course au MVP. Pour moi, c'est vraiment l'année ou jamais.
Donc, le Super Bowl, c'est... Tiens, on donnera nos vainqueurs du Super Bowl après. Je vais aller jusqu'à mon Super Bowl aussi, et comme ça, on donne chacun nos vainqueurs. Donc, moi, j'avais Cincinnati, Buffalo et Kansas City qui passaient le premier tour, ce qui veut dire que Cincinnati va jouer à Tennessee et on a un Buffalo-Kansas City en dessous. Ma surprise des playoffs, elle est là. C'est Cincinnati qui sort Tennessee.
Ah, elle est là.
Voilà. Je pense que, tu vois, un Derrick Henry qui revient en cours de route, je suis jamais trop fan des joueurs qui reviennent pile poil pour les playoffs parce que manque de rythme. Du coup, j'ai peur que ça force un peu. J'ai peur que voilà. Et puis surtout, si ça accélère, j'ai peur que les ischios de Julio Jones ne suivent pas. Tu vois, il va voir Jamar Chase, il va essayer de faire pareil, mais il va se mettre à courir et puis ça va plus suivre. Donc, je dirais Cincinnati en finale de conf de ce côté-là. Buffalo, Kansas City, c'est le remake de la finale de conf de l'an dernier et je vais redonner Kansas City. Sans argument très logique parce que Buffalo a la meilleure défense, parce qu'ils ont de quoi profiter de la faiblesse défensive des Chiefs. Et pourtant, je vais dire Kansas City. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui fait une finale de conférence Cincinnati-Kansas City. Là, je vais jouer plus logique avec Kansas City à l'expérience qui sort. Encore, du coup, un nouveau prétendant, parce que tous les ans, ils éliminent une équipe un peu surprise en finale.
Les casseurs de hype.
C'est ça. Donc, Kansas City au Super Bowl. Du côté NFC, les Rams, les Cowboys, les Buccaneers passaient le premier tour pour moi. Donc, ce qui veut dire, je dis pas de bêtises, oui, c'est les Rams sont tête de série numéro 4, mais c'est la plus basse. Donc, ils vont jouer les Packers. Et en dessous, Dallas, Tampa Bay, à Tampa. Je vais donner à Tampa à l'expérience pour le premier match. Et Green Bay aussi pour moi, plus régulier que les Rams cette année. Donc, je vais aller sur un Green Bay Tampa en finale de conf, même chose que toi, et même vainqueur, Green Bay. Je pense aussi qu'il y a un truc à jouer pour Aaron Rodgers sur les defensive backs de Tampa, et puis qu'ils sont quand même moins vernis sur les blessures, les Buccaneers. Il y a moins il y a plus de problèmes aussi en attaque avec les cibles. Il y a eu des blessures, il y a eu Antonio Brown, etc. Donc, Green Bay Kansas City pour moi. Donc, on a un Green Bay Buffalo et un Green Bay Kansas City. Il y a une constante. Ton vainqueur, c'est
Green Bay, du coup, la constante.
Et bien, constante aussi, parce que j'ai Green Bay en vainqueur. Voilà pour nos tableaux des playoffs. Vous pouvez les retrouver sur le site. On va tous les mettre sur le site, ceux de la rédaction. Et puis, ce sera le thème du fauteuil de dimanche, puisque je vais vous proposer un tableau des playoffs un petit peu rock'n'roll. C'est-à-dire qu'on va faire les scénarios les plus fous des playoffs. Je vous invite à nous suivre sur twitch.tv/tdactu. On va faire les scénarios, j'ai fait un bracket. Avec vraiment voilà, un truc assez fou, en essayant d'imaginer ce qui pourrait entraîner d'autres trucs, etc.
Un Pittsburgh-Philadelphia en finale, ça va être sympa pour moi.
Ouais, alors je ne suis pas allé jusque-là. J'ai essayé peut-être de chercher des trucs qui pourraient éventuellement être sensés, même si ce serait des grosses surprises, mais de chercher des arguments pour. Et voilà, j'ai essayé de faire un truc un petit peu rock'n'roll. Si l'ordinateur le veut, hein, bien évidemment, puisqu'on ne va pas vous cacher qu'avec la technique, vous l'avez vu, dimanche dernier, c'était un peu compliqué. Et là, juste avant cet enregistrement avec Lucas, mon ordinateur s'est tout simplement éteint alors qu'on commençait. Donc, c'est un peu particulier. Oui, il va falloir que j'aille chercher un PC. Mais voilà, c'est la grande tragédie de mon début d'année 2022. Ça, hein. Je ne m'en remettrai pas. Sur ce... Les cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet. Lucas, quelle cote pour toi cette semaine? Est-ce que tu en as déjà repéré?
Bah, je vais être constant dans ce que j'ai dit. Forcément, alors je sais pas si on est déjà dans le YOLO ou pas, mais forcément il y a Pittsburgh. Alors peut-être on va être un peu plus déjà les Raiders à Cincinnati. Je l'ai dit, c'est pas forcément palpable. Mais j'imagine bien les Raiders gagner, ils sont à 2,78 à l'extérieur. Pour moi, c'est un peu plus serré que ce que les codes veulent bien penser, donc pourquoi pas.
Ah oui, les Raiders, c'est haut du coup. Ah ouais, on est quasiment dans le YOLO. Bon, c'est dur de faire des YOLO en playoff, hein, il n'y a que 6 matchs. Donc,
le problème, c'est que toutes les cotes sont assez hautes. Il y a très peu de matchs qui sont d'habitude. Bah, on en a un 85 et un 90. Là, c'est
rare. J'allais dire que si vous croyez vraiment. Bon, déjà, moi, je mettrais les Rams à un 44. Parce que. Non, pardon. Alors, si vraiment la moitié de la rédaction croit vraiment sincèrement à San Francisco et que Dallas se plante, on peut carrément directement mettre les 49ers. Ils sont à 2,25.
Oui, c'était. La deuxième option.
Et du coup, je compléterai le trio avec les Bills à 1,45. Ils ont la meilleure cote chez les favoris hors Cowboys. Et ça fait un petit combiné plutôt sympa, hein. Raiders 2,78, 49ers 2,25 et Bills 1,45, 5 euros misés, 45,35 € de gains potentiels. Donc ça fait quand même un petit combiné sympa pour 10 euros, ça fait 90,70. Bon, après, encore une fois, hein, le Raiders le rend quand même un peu osé.
Oui.
Je trouve. YOLO.
Ah bah là, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Hein.
Alors vas-y, tu sais quoi, le YOLO, on va pas s'embêter, on va jouer tous les outsiders.
Bah déjà, le YOLO, à partir du moment où on met Pittsburgh à 5-0-5, c'est YOLO déjà. C'est rien que ça, c'est YOLO.
Ah bah, je me demande si c'est pas le plus gros YOLO en fait, de la saison, là, si je mets les 6. Hein. Les 6 outsiders. Raiders 2,78, Niners 2,25, Patriots 2,50, Eagles 3,58, Steelers 5,05 et Cardinals 2,46. 5 euros misés, 3650,95 € de gains potentiels. Donc là, vous miseriez, encore une fois, je vous conseille plutôt de mettre 1 euro hein, si vous voulez jouer celui-là. Donc 1 euro, ce serait déjà 730 € de gains, hein, mine de rien. Mais a priori, c'est quand même 1 euro que vous risquez d'avoir mis à la poubelle parce que là, c'est vraiment un YOLO de l'extrême parce que bon, Pittsburgh, déjà, c'est ultra chaud. Le Eagle, c'est ultra chaud. Et oui, non, là, je pense qu'on est vraiment sur du très haut. La cote totale est à 695,47 sur les trucs. Et du coup, ça veut dire qu'on parierait sur 6 victoires à l'extérieur au premier tour des playoffs.
Après, alors oui, bon, là, clairement, on est sur de l'imagination totale, mais tous les favoris sont à domicile et on rigole, mais il y a toujours une surprise ou deux quand même dans ces playoffs-là. On l'a vu déjà dans la saison, il y a toujours une surprise ou deux. Reste à trouver la bonne maintenant.
Oui, une ou deux, ça ne me dérange pas. 6,
c'est plus compliqué.
C'est un peu plus compliqué. Voilà, en tout cas, pour les cotes de notre partenaire Unibet. Et c'est comme ça que se termine l'épisode 475 du podcast J'en Action. On vous remercie de nous écouter. On remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Petite annonce aussi, il y a un de nos partenaires qui est de retour, c'est le Hard Rock Café. Les playoffs sont là. Et si vous avez envie de regarder ces matchs avec d'autres fans NFL, c'est au Hard Rock Café Paris que ça se passe. Chaque dimanche, il y aura un rendez-vous au salon VIP, la carte Happy Hour pour toute la soirée. Et donc, les grands matchs au programme. Ce dimanche, c'est 19h avec le Buccaneers Eagles. Alors évidemment, restrictions horaires dues au Covid, etc. Donc, ce sera un match par dimanche. Donc, le match de 19h ce dimanche, le match de 21h pour le Divisional le dimanche du Divisional, le premier match des finales de conférence et puis le Super Bowl. Évidemment, par contre, là, ce sera à l'horaire du match. Il y aura une grande soirée Super Bowl. Tous les détails arriveront au fur et à mesure. Mais voilà, je voulais mettre un petit mot là parce que ça fait plaisir de retrouver le Hard Rock Café, qui est un de nos partenaires historiques et évidemment qui a vécu, qui a quand même eu une actualité un peu agitée par les deux dernières années, mais on est content qu'ils nous fassent confiance et qu'ils reviennent vers nous dès maintenant pour cette fin de saison. Pour nous suivre, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TDActu, en entier @Elvola pour Lucas, Alain Mattei, pour moi-même sur les réseaux sociaux. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur TDActu.com. Tiens, je me permets un petit peu une dernière petite auto-promo avant de partir quand même. Il y a un nouveau podcast de la famille TDA Media qui est en ligne et vous le retrouvez sur le site, sur TDActu. Il s'appelle Occupation, c'est un podcast de reportage, ça n'a pas de rapport avec le sport, mais c'est un podcast de reportage tourné, monté par moi-même, où vous découvrirez des gens qui font leur métier ou qui font leur hobby, qui pratiquent leur hobby. Le premier épisode est en ligne, je vous invite à aller le découvrir. Ça parle barbe, ça parle barbier. Voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à faire tourner, faire tourner le plus possible. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir et à donner vos idées sur les métiers que vous aimeriez bien entendre dans l'émission. Merci beaucoup, Lucas.
Avec plaisir, toujours.
On se retrouve mardi pour le débrief.
Exactement.
Est-ce que tu es dans la team du mardi débrief?
Oui, je suis dans la team de mardi débrief.
Je n'ai plus tous les plannings en tête. Bon, en tout cas, on se retrouve. Donc, nous, Lucas, mardi, on se retrouve avant ça, évidemment, twitch.tv/TDActu pour le fauteuil de dimanche. Je vous l'ai dit, on parlera scénario fou des playoffs. Merci à tous de nous suivre. À très bientôt. Ciao, ciao et bon playoff.
Jeux de mots, tout sur le foutu est en TDActu. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDActu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to. courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.